Voici les titres du journal.
La Confédération, l'État du Valais et l'Association de soutien, de gestion et de promotion de la patrouille des glaciers ont un accord. Ils ont signé une feuille de route pour l'organisation des 4 prochaines éditions de la prestigieuse épreuve de ski alpinisme. Détail dans ce journal avec Yves Terrani. Les comptes 2020 de Long sont meilleurs que prévu. Annoncés déficitaires de plus d'1 million, ils sont finalement excédentaires de quelque 230 000 francs. Une bonne nouvelle pour le syndic boyard Patrick Turian. L'art investit les rues de Vevey ce week-end. À l'occasion de la 17e édition de Picto Bello, une vingtaine d'artistes sont venus créer en direct devant le public des œuvres d'art. Léa Journeau y est allée et a recueilli les impressions des spectateurs. Et puis en football, l'équipe de Suisse a rempli sa mission hier face à la Turquie. Victorieuse 3-1, la Nati doit maintenant patienter les résultats des autres groupes pour savoir si elle est qualifiée pour les 8e de finale.
Et pour la météo, du soleil, des cumulus et des averses parfois orageuses pouvant déborder sur la rivière et la plaine du Chablais, c'est ce qui nous attend cet après-midi. Et pour demain, le temps sera changeant. La météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Margot Reguin. Bonjour Margot.
Bonjour. La patrouille des glaciers est sauvée. En vue d'assurer sa pérennité, la Confédération, le canton du Valais et l'Association de soutien, de gestion et de promotion de la célèbre course d'alpinisme ont créé une fondation. Elle reprendra l'essentiel des tâches actuelles de l'association. Tous les détails de l'opération ont été révélés ce matin à Sion. Une conférence de presse suivie par vous, Yves Terrani.
Oui, une conférence de presse à laquelle participait la conseillère fédérale et chef du département de la défense, de la protection de la population et des sports, la Valaisanne Viola Amert, le chef du département valaisan de la sécurité des institutions et du sport, Frédéric Favre, ainsi que le divisionnaire Yvon Langel, commandant de la division territoriale 1 dont dépend la patrouille. Alors on le sait, l'organisation de la patrouille des glaciers a subi des turbulences ces dernières années, rien de pénal, mais des problèmes de structure, a rappelé tout à l'heure Frédéric Favre. On ne va pas refaire ici toute l'histoire. Il reste qu'aujourd'hui, la patrouille des glaciers est sauvée. Ces éditions 2022, 2024, 26 et 28 seront organisées. La Confédération s'est engagée en ce sens.
Et donc Yves, d'importantes décisions ont été prises pour pérenniser la patrouille.
Oui, les 3 partenaires précédemment cités ont revu leur forme de collaboration. Ils ont signé une feuille de route qui prévoit la création d'une fondation d'utilité publique. Celle-ci aura pour mission d'assurer la coordination de la promotion et du marketing de l'événement. Pour cela, elle pourra conclure des mandats de prestation avec des partenaires comme par exemple Valais Valis Promotion, la majeure partie de la fortune actuelle de l'association, ainsi que la marque et autres propriétés intellectuelles seront transférées à cette fondation dans le but de promouvoir la PDG et de lui assurer une protection financière. À noter, et c'est important, que c'est le Conseil d'État valaisan qui désignera le comité de la fondation. Pour le reste, eh bien, comme c'est actuellement le cas, le DDPS se chargera de l'organisation et de la gestion de la course. L'armée s'y est engagée, on l'a dit, jusqu'en 2028. Toutefois, le DDPS estime qu'il ne peut pas organiser seul la PDG. L'implication de l'État du Valais est donc nécessaire. Les différents aspects de la collaboration entre le DDPS et le département de Frédéric Favre seront réglés dans le cadre d'une convention. En ce qui concerne l'édition 2022, les travaux de préparation effectués par l'armée continuent. Comme prévu, durant cette période de transition, un comité stratégique ainsi qu'un comité de pilotage dont les présidences et les secrétariats seront assumés par l'État du Valais seront constitués. Ces 2 comités reprendront la majeure partie des tâches jusqu'à présent dévolues à l'ASPDG. Viola Amert s'est réjouie ce matin de l'avenir plus détendu qui s'offre à la patrouille des glaciers. Pour elle, il s'agit là d'une manifestation majeure, non seulement pour le Valais, mais aussi avec un rayonnement international. On rappelle ici que la PDG, c'est environ 5000 compétiteurs lors de chaque édition. Viola Amert s'est dite confiante en l'avenir. Elle a nié que son département avait mis trop de temps pour, si vous me permettez l'expression, faire le ménage, alors que les problèmes structurels étaient connus. Voilà ce que l'on peut dire en l'état, Margot Reguin, quant à l'avenir qui s'annonce radio, on le répète, de la patrouille des glaciers.
Merci Yves pour toutes tes précisions. Et dans le domaine de l'agriculture de montagne, le Valais comptera une nouvelle station d'essai. Le centre agricole de Viège se positionne comme un site de référence de la nouvelle station d'essai d'Agroscope en agriculture de montagne et en économie alpestre. L'objectif consiste à développer des solutions pragmatiques pouvant être mises en œuvre dans toute la région alpine. En Valais toujours, les réserves de sang ont atteint un niveau critique en raison des incertitudes concernant la vaccination Covid et des restrictions imposées à la population depuis le début de cette pandémie, les stocks de sang ne suffisent plus que pour quelques jours. Transfusion interrégionale CRS appelle à la solidarité pour assurer l'approvisionnement des hôpitaux. Une grande collecte est organisée aujourd'hui à Saint-Guérin, à Sion.
Ils étaient annoncés déficitaires de près d'1,5 million.
Les comptes de Long sont finalement meilleurs que prévu, avec un excédent de plus de 200 000 francs. La marge d'autofinancement a aussi augmenté, passant de 470 000 francs à près de 3,5 millions. La commune a aussi pu soutenir son économie locale grâce à la réserve pandémie créée en 2019, comme l'explique le syndic bailleur Patrick Turian.
Il est vrai que suite à cette pandémie, on avait mis 500 000 francs de côté pour pouvoir justement ou aider l'économie ou avoir des missions comme acheter des masques. Pour l'économie, on a lancé le Bon Boyard. Il y avait le Bon Coca pour le canton de Vaud. On a fait le Bon Boyard, ce qui était en fait un soutien à l'économie locale. Il fallait d'abord dépenser un peu dans l'économie pour avoir ensuite un retour, et ce qui représentait quand même un bon 20% par rapport à ça. Et on voit qu'on a eu un bon retour avec ces Bons Boyards. On a aussi exonéré les hôtels, les restaurants de certaines taxes, qui était important par rapport à cette période difficile qu'ils ont eue. Donc c'est pour aider cette économie. Et c'est un peu plus de 300 000 francs que la commune d'Olon a investi dans l'économie locale par rapport à la pandémie. Ce montant a pu être pris sur la réserve. Avec les bons comptes qu'on a eus, on a pu réalimenter cette réserve pandémie pour l'année 2021.
Les comptes ainsi que tous les préavis municipaux ont été validés vendredi dernier par le conseil communal de Long.
La créativité et le dessin s'étaient donné rendez-vous dans les rues de Vevey ce week-end.
À l'occasion de la 17e édition de Pictobello, le public a pu découvrir comment une œuvre se crée du début à la fin. Une vingtaine d'artistes suisses et étrangers ont été invités à dessiner sur des panneaux publicitaires vierges sur le thème des 50 ans du droit de vote des femmes. Un événement culturel qui fait du bien au public. Petit tour d'horizon des spectateurs venus voir les artistes avec Léa Journaud.
C'est fantastique de voir tous ces artistes travailler devant tout le monde. Oui, ça change un petit peu de l'art conventionnel.
J'ai vu les œuvres ce matin commencer à 11h, on est revenu après manger.
Quand vous êtes venu ce matin à 11h, entre là et avant, il y a beaucoup de différences ?
Un petit peu, oui, il y en a qui... Alors, il y a des artistes qui commencent un peu plus vite. Il y en a qui prennent, je pense chacun a sa méthode quoi, mais je pense qu'en se regardant l'un l'autre, ils veulent terminer quoi. Je pense celui ou celle qui prend un peu plus de temps se dit bon, faut que j'y aille là, en voyant, ouais, voilà. Je sais pas, après faudrait poser la question aux artistes quoi.
Pourquoi est-ce que vous êtes là déjà ?
On a appris qu'il y avait donc de la peinture qui était faite en extérieur, et puis j'aime bien tout ce qui est un peu peinture, art, et ça fait plaisir de revoir ça en ce moment. C'était vraiment très très long cette période où il se passait rien du tout, et puis là en plus en extérieur, c'est vraiment, on se sent bien de venir, on se sent pas coupable de venir voir.
Avant le Covid, d'avoir ce genre d'événement, c'était super. Après le Covid, c'est encore plus super. Donc voilà, quoi, on vient voir un petit peu les dessins qui se font.
Oui, bien sûr, ça, on commence à sortir sans les masques, c'est quand même important, et de voir ces dessinateurs se mélanger à la population, oui, c'est frais.
Les tableaux sont affichés jusqu'au 11 juillet sous la Grenette à Vevey. Ils seront ensuite détruits. Les Suisses ont consommé l'an dernier 747 400 terajoules d'énergie, soit environ 10% de moins qu'en 2019. La pandémie de coronavirus et des conditions météorologiques plus clémentes ont joué un rôle dans cette diminution, selon l'Office fédéral de l'énergie. Le trafic routier, la production industrielle et le produit intérieur brut ont aussi baissé, précise le FEN aujourd'hui.
Et ce week-end, la jeunesse socialiste a choisi son nouveau cheval de bataille.
Réunis en assemblée dans le canton d'Argovie, les délégués ont décidé de plancher sur une initiative intitulée « Faites payer les riches pour le changement climatique ». Le comité directeur doit encore développer le projet, mais on en connaît déjà les grandes lignes. Elle consiste à ponctionner fortement les grosses fortunes pour financer des mesures écologiques. 12 autres propositions concernant par exemple les retraites ou l'asile ont été soumises aux délégués. Pour Thomas Bruchet, si ce projet l'a emporté, c'est en partie en raison de l'échec dans les urnes de la loi sur le CO2. Le vice-président de l'AGS Suisse en est persuadé. Les plus riches doivent passer à la caisse.
Les super riches polluent nettement plus en moyenne que le reste de la population, donc sur le plan individuel, on va dire. Et d'autre part, c'est ces mêmes super riches qui profitent de ce système économique actuel qui est à l'origine de la crise climatique. Et s'ajoute à cela un des grands point de débat dans cette campagne sur la loi CO2, c'est finalement que la classe moyenne, les revenus inférieurs, les revenus bas devraient passer à la caisse, se verraient imposer une charge plus lourde. C'est des arguments qui étaient pour une grande part fallacieux, n'en demeure pas moins que ces arguments ont fait mouche et que par conséquent, il est extrêmement important désormais que cette politique climatique soit également redistributive, responsabilise non pas la classe moyenne, les petits revenus qui n'y peuvent rien, mais le 1%, les personnes les plus riches.
Les jeunes socialistes veulent fixer la limite de la fortune acceptable à 100 millions de francs. Le surplus pourrait être ponctionné par l'État et investi dans des projets écologiques. Une idée radicale qu'il ne faut pas voir comme une pure provocation, selon Thomas Bruchet.
Bien entendu, quand on lance une initiative avec la jeunesse socialiste, on n'a pas de grands espoirs de gagner. Ça, c'est une évidence, parce que de façon très générale, gagner une initiative en Suisse, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Néanmoins, c'est très important pour nous de montrer comment, selon nous, il faut lutter contre la crise climatique. Et comment, surtout, il faut payer pour ces outils qu'on mettra en œuvre. Lancer cette initiative, c'est vraiment montrer une vision, montrer une voie pour pouvoir lutter efficacement contre cette grande menace de notre temps. Et je pense que ça, ce n'est pas une provocation, mais c'est justement un apport argumentatif, un apport de contenu extrêmement essentiel et dont on a à nouveau très besoin en ce moment, alors que finalement la politique climatique, suite au refus de la loi CO2 le 13 juin, est au point mort aujourd'hui.
Des propos recueillis par notre correspondante à Berne, Hélène Yost. Ce projet interviendra à la suite de l'initiative dite 99% de la jeunesse socialiste qui sera soumise au vote le 26 septembre. Le travail sur le nouveau texte commencera donc juste après ce scrutin.
Comment l'Union européenne réagira-t-elle à l'abandon par le Conseil fédéral de l'accord institutionnel ?
La question taraude beaucoup de monde. La crainte est réelle de voir Bruxelles exclure la Suisse du programme de recherche et d'innovation européen Horizon 2021-2027. Cette mesure de rétorsion avait déjà été activée en 2014, après l'adoption de l'initiative de l'UDC contre l'immigration de masse. Quels seraient les effets d'une mise à l'écart des chercheurs suisses ? La Suisse a-t-elle une parade ? C'est le thème du dossier du lundi de notre bureau à Berne, préparé par notre autre correspondant, Serge Hubin.
Les plus inquiets au Parlement fédéral sont les membres de la Commission de la science et de l'éducation, sa présidente, la fribourgeoise Valérie Piller-Carrard.
C'est vrai que c'est une crainte qui nous interpelle. J'ai demandé à ce qu'on puisse mettre à l'ordre du jour ce sujet lors de la prochaine séance de commission, parce qu'on a beaucoup de questions qui émanent de ces différents milieux. Il y a beaucoup d'interrogations aujourd'hui. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est que les chercheurs en Suisse soient pénalisés.
La crainte est renforcée parce que l'Union européenne a déjà utilisé la recherche pour punir la Suisse, la vaudoise Isabelle Chevalet.
Avec Horizon 2020, ils nous avaient exclus de la recherche. Et ça, c'est une vraie peur. Ce d'autant plus qu'à l'époque, quand on avait discuté du paquet Horizon et Euratome, ils avaient fait un lien en disant c'est tout ou rien. Donc nous, les antinucléaires, on avait dû accepter ce paquet Euratome pour pouvoir accepter Horizon. Et que le lendemain de la votation du célèbre 14 février, eh bien, ils nous excluaient d'Horizon, mais pas d'Euratome. Donc on voit très bien qu'ils font de la politique avec ces programmes de recherche.
Le problème, c'est qu'on va plus difficilement avoir nos propres projets qui s'inscrivent dans Horizon.
Le Conseil national Verneuil-Châtelois, Fabien Fiva.
Des chercheurs suisses qui veulent développer des projets, qui veulent aller à la tête de ces projets, pourront sûrement plus le faire. Je vois mal pourquoi l'Union européenne ferait un pas vers nous.
À Bruxelles, on a des bureaucrates qui, somme toute, ne sont pas là pour défendre la recherche suisse. Ils sont là pour défendre les intérêts de l'Union européenne et sont prêts à sacrifier la recherche suisse pour le faire.
Comme Isabelle Chevalet, nombreux sont les élus à penser que le Conseil fédéral a sous-estimer l'impact dans la rupture de la négociation de l'accord cadre pour la recherche, et pas que la recherche fondamentale, mais toute recherche permettant à l'innovation industrielle de s'exprimer. La fribourgeoise Marie-France Roth-Pasquier, elle est aussi membre de la Commission de la science et de l'éducation.
On parle beaucoup d'économie, on parle beaucoup d'exportation, d'importation, c'est sûr que c'est primordial pour la Suisse, mais il ne faut surtout pas oublier le domaine de la recherche, le domaine de la formation, qui sont essentiels pour nous et pour nos chercheurs. Je pense qu'il faut déjà être proactif, il ne faut pas perdre le contact. Par contre, on a vu qu'on a été sorti d'Erasmus+, ça c'est quand même dommageable pour la Suisse et j'ai bien peur qu'on ne nous réintègre pas dans ce programme suite à cette décision.
Horizon, c'est pas juste un programme de recherche qui met ensemble des chercheuses et des chercheurs, mais c'est toute la question de l'innovation, le passage de la recherche fondamentale à la recherche appliquée. Et dans ce sens-là, je pense que la Suisse, elle s'inscrit beaucoup plus dans un réseau européen que dans un réseau par exemple avec l'Asie ou avec les États-Unis.
L'accord cadre enterré, que faire pour ne pas perdre dans la foulée l'accès au programme de recherche Horizon 2021-2027. 2021-2027. Les chambres fédérales ont débloqué un crédit de plus de 6 milliards. Faut-il envisager de contribuer davantage, Valérie Piller-Carrard?
Ça peut être un des moyens. Maintenant, il faut que l'accès soit identique et ça, c'est pas encore garanti.
Isabelle Chevalet.
C'est peut-être ce qu'ils vont nous demander, à savoir de plus grandes participations pour à quelque part compenser le fait qu'on ne soit pas ailleurs. Il ne faut jamais oublier que la Suisse n'a pas de pétrole, mais qu'elle a des idées et c'est ce qui fait notre prospérité ici.
En fait, en adoptant le crédit de participation de la Suisse à horizon 2021-2027, le Parlement a envisagé la mesure de rétorsion avec trois possibilités, une participation pleine, partielle ou une mise à l'écart, auquel cas les 6 milliards seraient affectés à la recherche en Suisse. Fabien Fiva.
Clairement, il y a cette possibilité que la Suisse finance les chercheurs qui veulent participer au programme. Par contre, ça signifie quand même que les centres de recherche en Suisse ne pourront pas développer leur propre programme dans le cadre d'Horizon.
Bien côté, au niveau mondial, les universités suisses et les écoles polytechniques de Zurich et de Lausanne subiraient-elles des effets négatifs de la possible mise à l'écart de la recherche suisse? Marie-France Rode-Pasquier.
C'est en tout cas ce qu'on entend de leur part. Les universités, les écoles polytechniques sont très inquiètes. Ils nous les avaient avertis même avant en disant « Faites attention, pour nous c'est primordial qu'on fasse partie de ces programmes ».
La commission de la science du Conseil national débattra de ces questions les 1er et 2 juillet prochains.
À Genève, la haute commissaire de l'ONU a pris la parole aujourd'hui pour dénoncer les violations des droits humains. Ce sont les plus vastes et graves jamais observées, d'après Michelle Bachelet. Elle s'est dite inquiète de la situation au Tigré ou encore de celle à Hong Kong. Dans le nord de l'Éthiopie, l'ONU estime que quelque 350 000 personnes sont menacées de famine. Des exécutions extrajudiciaires et des arrestations et détentions arbitraires ont également lieu. À Hong Kong, en un an après l'approbation de la loi sécuritaire, plus de 100 personnes ont été arrêtées. Plus de 50 ont été poursuivis.
En Suède, le Premier ministre ne plaît pas au Parlement qu'il a renversé par un vote de défiance.
Une première dans l'histoire politique du pays. Le social-démocrate Stefan Löfven a une semaine pour soit présenter sa démission, soit convoquer de nouvelles élections. Ce vote est la conséquence d'un revirement la semaine dernière du parti de gauche, jusque-là appui ponctuel de l'exécutif. L'Inde mise sur la gratuité pour inciter ses citoyens à se faire vacciner. La mesure a été instaurée aujourd'hui dans le cadre de la Journée internationale du yoga, une pratique loué par le Premier ministre Narendra Modi, pour qui le yoga a des vertus protectrices contre le coronavirus. Un point de vue combattu par nombre de médecins indiens. Dans le pays, la vaccination est ouverte à tous les adultes âgés de plus de 45 ans depuis le 1er mai, mais à peine 4% de la population est complètement vaccinée. En football, la Suisse peut encore croire à une qualification en huitième de finale. Après deux matchs décevants face au Pays de Galles et à l'Italie, la Nati se devait de montrer un tout autre visage hier soir à Bakou. Un autre visage qui s'est très rapidement exprimé sur la pelouse du stade olympique. Harry Seferovic ouvrait le score à la 6e minute, de quoi libérer les hommes de Vladimir Petkovic. 20 minutes plus tard, c'est Serjan Shakiri qui inscrit le 2-0 grâce à une superbe frappe à l'orée des 16 mètres. Les Turcs qui jouaient pour l'honneur ont réduit la marque en seconde période. Les hommes de Vladimir Petkovic ont alors continué à pousser, dominateurs et après de multiples tentatives, les Helvètes ont foncé le clou à la 68e minute, à nouveau par l'intermédiaire de Shakiri. La mission est donc remplie pour les hommes de Vladimir Petkovic. Il faut désormais attendre les résultats des autres groupes pour savoir si la qualification est acquise ou non. Pour l'attaquant de la Nati, Brill Embolo, c'est l'optimisme qui prime.
On sait qu'on a 4 points, d'abord il faut les avoir, les autres doivent les chercher. On reste positif, on savait qu'on voulait minimum gagner un match ou plus, on l'a fait, maintenant le boulot est fini, on va rester, on va regarder avec c'est sûr avec les 10 yeux les autres matchs, mais j'espère que ça va suffire à la fin et on peut se concentrer sur ce 8e.
Des propos recueillis par notre confrère de la RTS, Bernardin Alemann. L'équipe de Suisse reste donc dans l'attente de connaître son sort. Pour prétendre à une qualification en huitième de finale, la Nati doit faire partie des 4 meilleures équipes qui ont terminé 3e de leur groupe. Les résultats des prochains matchs seront donc déterminants pour les hommes de Vladimir Petkovic. Et puis en Formule E, la première des deux courses prévues ce week-end à Puebla, au Mexique, ne laissera pas un souvenir impérissable à Sébastien Buemi. Parti en 19e position sur la grille de départ samedi, le pilote d'Aigle n'a jamais pu se mêler à la lutte avec les meilleurs. Contraint de faire sa course loin du peloton, le Chablaisien a finalement terminé 16e. La victoire est quant à elle revenue au Brésilien Lucas Di Grassi, alors que le Genevois Eduardo Mortara s'est classé 3e. Dans la seconde course du week-end hier à Puebla, les choses ne sont pas mieux passées pour Sébastien Buemi. L'Aiglon a terminé au 14e rang d'une course remportée par son compatriote Genevois Eduardo Mortara. Enfin, les organisateurs des Jeux Olympiques de Tokyo ont décidé aujourd'hui d'autoriser des spectateurs locaux, mais à 50% des capacités d'accueil de chaque site. La limite maximale est fixée à 10 000 personnes. Les compétitions qui débutent le 23 juillet pourraient cependant se dérouler à huis clos si les infections Covid-19 se multipliaient de nouveau au Japon.
Retrouvez toute l'actualité en podcast et en vidéo sur radiochablais.ch. La météo avec Store Chablais. Pour vos volets et moustiquaires, storechablais.ch, partenaire Stobag.
Cet après-midi, développement de cumulus en montagne, suivi d'averses parfois orageuses, pouvant déborder sur la rivière et la plaine du Chablais en fin d'après-midi et en soirée. Une accalmie est annoncée par Météo Suisse par l'ouest en cours de nuit, avec une reprise des averses en fin de nuit. Au maximum aujourd'hui, 24 degrés en plaine et 21 degrés à 1000 mètres. Pour demain, Météo Suisse nous annonce un temps changeant, avec quelques éclaircies alternant avec des averses parfois à caractère orageux, surtout sur le relief. 22 degrés demain en plaine au maximum, 18 à 1000 mètres. La météo à 6 jours, radiochablais.ch.